Alors pourquoi m'occuper de la douleur? Parce qu'en effet, c'était un sujet hors champ académique. Comme ça, c'est un sujet qui n'existait pas, la douleur, c'était les bonnes âmes, les bonnes sœurs. Vous voyez, on n'était pas dans une problématique ni scientifique, ni même éthique. Voilà, donc, c'était classiquement, vous voyez, le jeune étudiant en médecine, la jeune infirmière qui ne supportait pas l'hôpital, qui disait, mais il faut changer de métier, il fallait se blinder. Ah oui, c'était transmissible face à la souffrance. Et l'archétype, c'était le chirurgien qui était son patient connu. Mais c'était quand même ça qui baigne encore pas mal de comportements. Et donc, c'était quand même un sujet voilà, qui a été pour moi, qui a comblé mes aspirations militantes orphelines, et qui a tout, à la fois, bon, c'est aussi sûrement une problématique personnelle derrière, hein, et qui, mais encore une fois, grâce à cette douleur, et en plus chez les enfants, donc, et c'était encore une fois tout à fait une manière de changer les pratiques, et d'être très concret, hein, c'était vraiment bouger les choses avec un bénéfice très rapide pour les enfants et les équipes. Et puis aussi avec, là aussi probablement mon itinéraire militant a dû m'y aider, c'est bah, finalement les moteurs du changement, c'était souvent les infirmières. Parce que c'est elles qui sont évidemment qui étaient concernées, parce que voilà, et que c'était elles qui harcelaient quiconque, qui essayaient de faire bouger les médecins. Et donc toutes nos journées UNESCO, ça arrive. C'est beaucoup d'infirmières, et donc là aussi dans ces journées UNESCO, on a fait la revue des revues de la littérature, les dernières percées scientifiques, tous les choses, toutes les bonnes équipes qui travaillent, qui ont trouvé une solution à tel problème de douleur, hop, on les fait venir, on valorise donc, tout ça, et donc il y a vraiment cette association rapide des non-médecins, essentiellement quand même les infirmières, aussi, qui ont été aussi une dynamique. À mon sens, tout à fait fécond. Alors, autre aussi, l'autre chose, c'est un peu en vrai, alors c'est pas vraiment trié, c'est que aussi ce qui était passionnant, aussi dans, par exemple, la consultation migraine, hein, c'est vrai qu'une consultation migraine, hein, chaque nouveau patient, à l'heure actuelle, vous voyez, dans le cadre du service public, c'est une heure et demie de consultation. Et qu'est-ce qu'on va faire dans cette consultation? Il y a trois parties. Donc, une première partie où on va faire, consultation médicale classique, voilà, les antécédents, descriptions, les médicaments, les bilans, mais dans un deuxième temps, on va aborder un peu l'aspect, enfin, toutes les deux, enfin, les données psychosociales, c'est-à-dire qu'on va voir que dans la migraine, il y a très souvent des facteurs émotionnels, des facteurs psychologiques, qui sont d'authentiques facteurs déclencheurs, il n'y a pas que ça, très souvent, on a ce registre-là, et donc on va passer un tiers de la consultation à voir que l'enfant dans quelle famille. Comment les soucis d'argent se donnaient. Enfin, oui, on va lister, mais avec beaucoup de bienveillance, et oui, on ne va pas bien en tête, évidemment, sur ce registre. Hein. Donc, les maladies graves dans la famille, les finances de la famille, les parents chômage, les disputes, les parents, les enfants, les parents entre eux, l'école. Oui, on va vraiment screener, si j'ose dire, peut-être un mauvais terme, mais toute cette dimension psychosociale, et là on va voir quand même apparaître, émerger toute une série de problématiques, souvent qu'on va. Et souvent d'ailleurs, ça va même, lors de ces consultations, des choses vont émerger qui n'étaient jamais dites, etc. Et qui vont parfois être une grande manière de faire bouger la famille et voir d'améliorer pas mal ces enfants. On a beaucoup de psy, on a trois mais dans l'équipe actuellement, on a trois psy à. Psychologue plein temps, rare pour les services de psychologues qui font aussi. Alors, donc, on a dans la prise en charge, alors j'oublie donc, la troisième partie de la consultation, pardon, la première partie de la consultation médicale, la partie biologique, on va dire, la partie psychosociale en deux, et trois, alors, ce qu'on appelle pompeusement maintenant, et je trouve un peu de manière un peu paternaliste, l'éducation thérapeutique. C'est-à-dire qu'on va leur expliquer à ses enfants et à leurs parents, voilà, il y a différents types de moteurs. Il y en a où il faut bien prendre les médicaments très rapidement. S'il y a des vomissements, il faut apprendre le voie nasale, sur des dispositifs. Vous voyez, et bien essayer de. Puis aussi tout ce qui concerne les facteurs émotionnels les problèmes de stress à l'école. Ce gamin-là, il n'y a pas besoin de toute la pression parce que chaque fois qu'on lui met la pression, il rate ses contrôles parce que les gamins sont complètement. Certains, dans cette population, des enfants sont assez sensibles, qui ont la pression qu'ils perdent leurs moyens. Les histoires des familles que je vous parlais, qui peuvent les parler, qui sont sur certains enfants, ces enfants assez sensibles, des choses très difficiles. Bon, après, je ne sais pas. Oui, alors, l'îlot socialisme. Je ne sais pas qui fait par ça. Pourquoi l'îlot socialisme? Parce que c'est vrai qu'on a une équipe, voilà, multidisciplinaire, là, une dizaine de membres, on va dire. Et j'essaye, alors c'est très difficile de ma part, hein, vous imaginez, du patron de dire que c'est un bon patron libéral. Et bon, enfin, c'est néanmoins avec une parole relativement. La hiérarchie est là, certes, mais elle est, je pense, assez. Voilà, encore une fois, je n'ai pas obligé de me croire. Et j'ai mis parfois démocratie paralysante, c'est aussi le travers que vous pouvez imaginer à traiter de.
Oui, de consensus.
Donc voilà, l'équipe, on incite Internet. Et puis voilà. Bon, voilà. Alors, la souffrance au travail, justement, c'est ça le paradoxe, c'est que dans cette unité, j'ai pas l'impression que les gens soient vraiment malheureux, que les gens se donnent pas mal.
Et que par contre. Peut-être aussi des autres qui sont autour.
Voilà, par contre, alors c'est vrai qu'on est transversal. Enfin, à la fois, on a cette grosse consultation, mais nous aussi, on invite dans les services.
Ouais.
Voilà. Alors, c'est sûr qu'à l'actuellement, là, depuis quelques mois, je trouve que depuis que l'hôpital est depuis la semaine dernière, là, l'apocalypse, l'hôpital va fermer. Plus, alors là, les plans drastiques d'économie où les infirmières ne sont pas remplacées, ou les médecins aussi d'ailleurs, hein. Au quotidien, on a des situations de tension, de souffrance massive, et avec justement bon, les syndicats qui sont là, mais qui, je ne sais pas s'ils répondent actuellement bien à toutes et tous.
J'ai des échos que, effectivement, ça ne se passe pas toujours bien dans les hôpitaux.
Non, c'est sûr, alors voilà que. Et puis finalement, là, je vois un peu ce qui se passe à Crousseau. Mais nous, on a une équipe. Et là, on est tout de suite été en première ligne sur défendre l'hôpital, se mobiliser. Donc, oui, on faisait le staff ce matin d'équipe, là. Et bien, très vite, on a fait le plan de bataille, machin, les tracts, quasiment, voilà, les affiches.
Est-ce qu'il y a des passages qui vont c'est quoi cette opération?
Ben non, encore une fois, non, mais ce qui n'est pas non plus faux, c'est vrai que les hôpitaux parisiens, c'était quand même. Ce sont des hôpitaux où on dépense beaucoup de choses. C'est sûr qu'on pourrait, de manière. Alors, comment, de quelle manière, ça c'est autre chose. Probablement dépenser moins de sous et faire aussi bien, voire mieux. Mais ça, c'est le problème de ces grandes organisations. En un an, deux ans, c'est France Télécom, on était vraiment confortable, soyons clairs. C'était confortable. On voyait même les collègues de province qui souffraient les plans des économies. Pareil, on restait toujours sur nos hauteurs avec beaucoup d'empathie pour nos collègues. Mais bon, ça restait. Ouais. Et là, vraiment, c'est en deux ans, ça a été voilà, plus la nouvelle valeur. Il y a eu trois réformes de l'hôpital là, dans les dernières années. Il y a eu donc la nouvelle gouvernance, c'est-à-dire que historiquement, donc l'hôpital est structuré en service, avec des chefs de service, mais des chefs de service qui sont tout puissants, les mandarins. Et c'est vrai que ça, le système pouvait être bien quand il y avait un mandarin de qualité. Il y en a eu, il y en avait, qui savait gérer une équipe, qui va, voilà, qui. Bon. Mais il y avait aussi, évidemment, les boulets qui figeaient toute l'évolution, qui étaient tout puissants, et donc des organisations infrastructurelles étaient complètement bloquées parce que c'était le patron. Voilà, donc, ça c'est des choses qu'on trouve aussi déjà tout le monde. Mais je crois qu'en médecine plus particulièrement, et en plus à la science publique, il y a aussi le lien consubstantiel qui existe entre quand même beaucoup de patrons et le milieu politique, évidemment, à son cousin, ou sont dans ses patients, le directeur de cabinet. Et donc, c'est-à-dire, quand un directeur voulait bouger un truc, c'est justifié localement, il y avait le coup de fil. Ça, c'est quand même aussi la spécificité des hôpitaux parisiens.
C'était une grosse machine par laquelle il y avait des petits barons à l'intérieur et avec une capacité de pilotage global.
Voilà. Oui, là, donc, en fait, c'est la nouvelle gouvernance. Donc, c'était, on fait donc en pôle, c'est tous les services en pôle. Donc, là aussi, c'est pour que mutualiser les moyens, ce qui n'est pas non plus. Pas stupide, bien sûr, hein, mais avec aussi tous les enjeux de pouvoir que vous identifiez derrière. Les gens qui ont été structurés, qui ont été dressés dans les hôpitaux, changés de. Et déjà que ce n'est pas simple au quotidien, que déjà, il y a tout, comme toute institution, l'université et autres, hein, c'est parfois violent. Toutes ces luttes internes, et par là aussi, avec la pénurie et l'autre, là, ça a été un peu grand.
C'est un changement d'organisation, le oui. Chef de service au pôle.
Voilà. Donc c'est chef de service qui devait, c'était il y a 2-3 ans, maintenant. Après, il y a eu donc.
Et quelle est la différence entre le chef de service et le chef de pôle?
Eh bien, que maintenant, il n'y a plus de chef de service, quasiment, ils sont en train de s'éteindre.
D'accord, c'est-à-dire et un pôle, c'est un ensemble plus grand.
Non, oui, c'est ça. Mais avec aussi, maintenant, on ne sait plus qui va être. Si, il y a un chef de pôle qui c'est lui qui dirige, en fait.
C'est des services multidisciplinaires, parce que le chef de service, ça
c'est un des chefs de service.
Qui dirige plusieurs services.
Voilà.
D'accord. Ouais, d'accord.
Et aussi la politique de personnel, etc. Je sais pas, c'est évident, face à ces infirmières, on va parler de ça, et puis on parle du quotidien. Parce que, on voit bien maintenant, vu qu'on est plus tendu, par exemple, une infirmière qui téléphone le matin, qui ne peut pas venir, son gamin est malade, parce qu'elle est même surmenée, parce que voilà. Ça bloque tout. Donc, plus la salle de réveil ne peut plus marcher. Si la salle de réveil ne peut plus marcher, on peut peut-être y aller les urgences la nuit. Voilà, c'est vraiment en permanence.
Vous êtes passé de combien de services à combien de pôles?
Mais les services existent toujours, c'est ça aussi. Ouais, en réalité, on aura une vingtaine de services et voire 5 pôles. D'accord. Et là aussi, on a laissé les gens. Spontanément ça s'agréger entre eux, hein. Mais des fois sans aucune logique fonctionnelle. C'était aussi les haines entre les haines et les alliances. Vous imaginez aussi ce que ça peut donner comme.
Mais les principes ont été décidés par le ministère. Dans le ministère, il y a des gens qui sont vraiment compétents au niveau de la branche de la santé.
Oui et non, enfin, c'est-à-dire qu'il y a. Parfois, quand même de bonnes idées. Enfin, on voit bien quand il y a des hôpitaux qui ont besoin de bouger. Mais la manière aussi, la rapidité. En plus, le problème, c'est que maintenant, toutes ces bonnes intentions, entre guillemets, là, maintenant, c'est les économies. Hein. Peu importe les pôles, etc. Si on a fait miroiter, il faut manquer de pôles. Vous aurez une autonomie budgétaire, vous pourrez gérer si vous faites des économies. Alors, je reviens sur les grandes réformes de l'hôpital et surtout la toute dernière, qui est vraiment. Plus terrible, c'est le paiement à la T2A. T2A, ça veut dire quoi déjà? Ça veut dire qu'on se retrouve à l'hôpital public, à comptabilité. On est payé, on a des budgets que si on produit du soin. Et donc pour produire du soin, il faut tout, il faut une nomenclature, il faut. Nous encore, la consultation, on y échappe encore. Et tous mes collègues qui ont des audits d'hospitalisation en permanence, il faut passer ça. C'est le paradoxe, parce que souvent j'ai fait quand les gens choisissent l'hôpital public, c'est pas pour être dans le privé.
C'est-à-dire avant il avait la relation lit.
Oui, les dotations étaient liées
à exactement, la dotation globale était liée à la quantité de lits utilisés. Ah. Et maintenant on passe à la structure pratiquement déclinée sur toute l'activité, c'est-à-dire qu'on peut en charge, c'est-à-dire que le patient, quand on entre, il y a une visite, il y a une visite, etc., etc.,
jusqu'à les médicaments. C'est pas pour une appendicite, c'est ça. Tout avec le privé, c'est qu'il n'y a pas les mêmes chers. Il y a aussi tout le projet de mettre privé et public en même temps, parce qu'il y a déjà le cas. Mais donc, on parle aussi de la taille, tout ça. Donc, on rentre dans une ère de comptabilité. quantité massive. Moi, je vois que mes collègues anesthésistes... Oui, ça. Moi, je vois plus l'intérêt quand on est anesthésiste ou chirurgien, quand c'est en clinique. Parce que c'est mieux organisé, ça va plus vite, c'est plus efficace, plutôt que d'être en conserve. C'est là aussi, que des connants, on sent que... c'est ça commande là une fuite. Des gens qui étaient dans le public ont déjà compris, parce que finalement, on prend la même chose, et ça, on est conditionné depuis plusieurs heures.
Oui.
Donc voilà aussi, donc là, alors, évidemment, la souffrance qu'on peut imaginer à tous les niveaux d'ailleurs, et les médecins aussi, tout cet chef de service, vous voyez, qui était 50-60 ans, quoi. Là, le mot, tout s'écroule là, en plus, on a vu qu'on fait leur hôpital, vous voyez.